My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence et nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous réunir et de réfléchir à la naissance, à la vie et à la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Thomas Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Nous adressons nos vœux de Noël les plus chaleureux à chacun de vous et aux gens qui verront cette veillée ultérieurement. Nous saluons la présence de la première présidence et de membres du Collège des douze apôtres, ainsi que d'autres autorités générales et présidences générales d'auxiliaires. La musique de cette veillée de Noël sera interprétée par le chœur du Tabernacle et par l'orchestre de Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg, avec Ryan Murphy et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Oh, quel bonheur, Jésus viendra !» Ensuite, David Elbeck, président général des jeunes gens, fera la prière d'ouverture. Le chœur nous fera ensuite le plaisir de chanter « Premier Noël ».
Notre Père Céleste, nous venons devant toi en prière et nous t'exprimons notre amour et notre gratitude pour tes bénédictions abondantes. Nous sommes reconnaissants de cette période de Noël et pour l'occasion que nous avons de méditer sur la naissance de ton Fils bien-aimé et de la célébrer. de nous rapprocher de toi et les uns des autres grâce à des expressions de service et de gratitude les uns pour les autres. Pour l'occasion de faire le point sur nos dîmes et nos offrandes et d'en rechercher ton approbation. Nous sommes reconnaissants de cette veillée et de cette occasion d'écouter les messages inspirés de la première présidence de ton Église, d'apprécier la belle musique du chœur du tabernacle et de l'orchestre de Temple Square. Et nous te demandons de bénir ces musiciens et ces choristes et leurs familles et de consacrer leur musique pour leur bien-être de leur âme. Nous te remercions, cher Père, d'avoir tant aimé le monde que tu as donné ton Fils bien-aimé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous prions pour que nos esprits et nos cœurs soient ouverts à l'influence édifiante et rassurante de ton Saint-Esprit. Nous prions pour que nous puissions être inspirés pour prêter attention aux paroles de tes serviteurs qui ont cherché avec toute l'intention de leur cœur à prendre sur eux le nom sacré de ton Fils et qui sont les témoins spéciaux de son nom dans le monde entier. Aide-nous, Père, à comprendre, à apprécier et aimer notre Sauveur. Fortifie-nous pour que nous le suivions fidèlement. C'est notre prière, humblement, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Merci de cette belle musique. Le président Monson a demandé que je sois le premier orateur. Après mon discours, nous entendrons Henry B. Ehring, premier conseiller dans la première présidence. Quelle période merveilleuse et joyeuse de l'année. Je me réjouis toujours d'être ici le premier dimanche de décembre lorsque nous avons l'occasion d'entendre de la musique magnifique et d'écouter des discours qui nous amènent dans une nouvelle période bénie de Noël. Nous nous faisons à nouveau une joie d'entendre le prophète de Dieu, notre bien-aimé président Monson. Noël a toujours été pour moi une période spéciale. Lorsque j'étais très jeune, j'habitais en Tchécoslovaquie, où les riches traditions centenaires de Noël étaient partout autour de nous. Bien que de nombreuses années aient passé, je continue de repenser à ces jours-là avec une tendresse qui me laisse de profonds sentiments de reconnaissance et de joie. Une année, lorsque j'avais peut-être 4 ans, j'étais dans la pièce où nous avions notre sapin de Noël. Il était orné de belles décorations scintillantes. Des guirlandes de Noël argentées, disposées sur ses branches, reflétaient la lumière de vraies bougies en cire qui vacillaient tout autour de moi. Il y avait une fenêtre près de là qui donnait sur la rue. Ses rideaux scintillaient dans la lumière, ajoutant un certain mystère et une certaine magie à ce tableau. J'ai fait deux découvertes mémorables ce jour-là. La première, c'est que si je tenais une bougie allumée derrière les rideaux, la lumière miroitait merveilleusement à travers le tissu délicat, le transformant en quelque chose de sublime et de fascinant. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que les rideaux sont inflammables. Comme vous le devinez sans doute, la flamme de la bougie a enflammé le tissu des rideaux et s'est propagée rapidement, menaçant les murs et le plafond de notre appartement. J'ai hurlé de peur, mes parents sont arrivés dans notre pièce en courant et ont rapidement arraché les rideaux et piétiné les flammes, évitant ce qui aurait pu être une terrible tragédie. Une fois le danger écarté, les restes brûlés de ce qui avait été un magnifique parement de fenêtre jonchaient le sol. La fenêtre maintenant nue se dressait derrière moi, froide et me condamnant. Je me tenais timidement debout devant ma mère et mon père, sans explication ni excuse. Je savais, avec toute la certitude d'un garçon de 4 ans, que j'avais gâché Noël. Près de 70 années ont passé depuis ce jour catastrophique et j'ai appris certaines choses importantes de cette unique expérience de pyromane. Premièrement, il ne faut jamais jouer avec le feu. Un message important avec des conséquences, aussi bien au sens propre que figuré, pour tout le monde, pas seulement pour les enfants. Deuxièmement, même si j'ai presque transformé notre appartement en un tas de cendres et de fumée, je n'ai pas gâché Noël. Cet événement ardent a bien sûr été une expérience effrayante. Je suis sûr que ma mère et mon père ont été stupéfaits et consternés que j'ai fait une chose si stupide. Mais en fin de compte, cela n'a ni diminué l'amour que nous avions dans notre famille, ni détruit le miracle de la période de Noël. À cette époque, on racontait souvent aux enfants allemands cette coutume qu'à Noël, les garçons et les filles bien élevés recevraient des cadeaux et des friandises, alors que ceux qui s'étaient mal conduits seraient punis et recevraient 10 routes, une verge en bouleau. Selon la plupart des principes, mettre le feu au rideau du salon est considéré comme une mauvaise conduite. Si bien que le moment de ma terrible faute n'aurait pas pu être pire. Mais je n'ai pas reçu Dirute. Les souvenirs de ce Noël et de tous les autres de mon enfance me sont chers et précieux. Le fait de savoir que ma famille m'aimait toujours a été une merveilleuse bénédiction et une grande leçon. Quand j'y repense, ma peur d'avoir gâché Noël venait d'une compréhension incomplète de ce qu'est vraiment Noël. Et j'ai remarqué que les enfants de 4 ans ne sont pas les seuls à faire cette erreur. Il semble parfois que nos efforts pour avoir une période de Noël parfaite sont comme un jeu de Jenga. Vous savez, celui qui se joue avec de petites pièces en bois qui sont empilées en un équilibre précaire pour former une tour. Pour essayer d'augmenter la hauteur de la tour, on retire une pièce en bois avant de pouvoir la replacer au sommet de cette structure fragile. Je suis sûr que vous y avez déjà joué. Chacune de ces petites pièces symbolise les événements du Noël parfait que nous désirons si désespérément avoir. Nous avons à l'esprit l'image de la façon dont tout devrait être. L'arbre parfait, les lumières parfaites, les cadeaux parfaits et les événements familiaux parfaits. Nous désirons peut-être même recréer le moment magique dont nous nous souvenons d'un Noël passé et rien de moins que la perfection ne conviendra. Tôt ou tard, quelque chose de déplaisant se produit. Les pièces en bois tombent, les rideaux prennent feu, la dinde est brûlée, le pull n'est pas de la bonne taille, les jouets n'ont pas de pile, les enfants se disputent, la tension monte, et l'image parfaite de Noël que nous avons imaginée, la magie que nous avons voulu créer, se brise autour de nous. Si bien que la période de Noël est souvent un moment de tension, d'anxiété, de frustration et peut-être même de déception. Mais si nous sommes seulement prêts à ouvrir notre cœur et notre esprit à l'esprit de Noël, nous prendrons conscience des choses merveilleuses autour de nous qui attireront ou ramèneront notre attention vers le sublime. C'est généralement une petite chose. Nous lisons un verset des Écritures, nous entendons un chant de Noël sacré, et nous écoutons vraiment, peut-être pour la première fois, ces paroles où nous sommes témoins d'une preuve d'amour sincère. D'une façon ou d'une autre, l'Esprit touche notre cœur et nous voyons que Noël lui-même est bien plus robuste et durable que les nombreuses petites choses de la vie que nous utilisons trop souvent pour le parer. Dans ces précieux moments, nous nous rendons compte de ce que nous ressentons et savons dans notre cœur que Noël concerne le Christ. Noël et certaines de nos chères traditions de cette période nous rappellent que nous devons, comme les rois mages, rechercher le Christ et déposer devant lui les dons les plus précieux, un cœur brisé et un esprit contrit. Nous devons lui offrir notre amour. Nous devons donner notre disposition à prendre sur nous son nom et à suivre le chemin des disciples. Nous devons promettre de nous souvenir toujours de lui, de suivre son exemple et d'aller de lieu en lieu faisant le bien. Nous ne pouvons pas lui offrir le don de la perfection en toutes choses, parce que c'est un don au-delà de nos capacités, au moins pour l'instant. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous nous engagions à déplacer des montagnes, mais il attend de nous que nous apportions en cadeau nos meilleurs efforts pour nous déplacer un pas devant l'autre pour suivre la voie qu'il a préparée et enseignée. Et quels sont les dons du Seigneur à ceux qui sont disposés à lui apporter ces dons?
C'est peut-être l'échange de dons le plus inégal de l'histoire de l'univers. Les dons du Seigneur, pour nous, sont incroyables. Commençons par l'immortalité. Puisque le Sauveur a vaincu la mort, tous les hommes et les femmes, les justes comme les injustes, vivront à jamais. Puis le pardon, même si nos péchés et nos imperfections sont comme le croix moisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige grâce à lui. Il est notre Sauveur. Et pour finir, la vie éternelle, le plus grand de tous les dons. Grâce à l'expiation, non seulement une longévité infinie nous est garantie, mais le Christ nous offre aussi la possibilité d'une qualité de vie inimaginable. Certains de ces dons divins sont réservés pour ce jour à venir glorieux lorsque nous retournerons en sa présence. Mais il nous offre de nombreux dons et sa grâce tous les jours. Il promet d'être avec nous, de venir à nous quand nous avons besoin de réconfort, de nous relever quand nous trébuchons, de nous porter si nécessaire, et de pleurer, rire et se réjouir avec nous. Il propose chaque jour de nous prendre par la main et de nous aider à transformer une vie ordinaire en des expériences spirituelles extraordinaires. Bien sûr, nous n'avons pas besoin des fêtes ni des traditions de Noël pour nous souvenir du Sauveur, Jésus-Christ. Mais les célébrations de Noël peuvent nous aider à nous souvenir de lui. La période bénie de Noël peut être l'occasion de nous réengager à garder allumé chaque jour, en notre cœur, la flamme de l'Esprit et la gloire du Fils de Dieu tout au long de l'année. C'est un moment merveilleux de l'année. Il n'est peut-être pas parfait, mais si Noël peut diriger notre cœur vers notre Sauveur, nous pouvons nous réjouir même dans les imperfections de cette période. Frères et sœurs, chers amis, puissions-nous toujours nous souvenir d'apporter des cadeaux à celui qui s'est entièrement donné à nous. Puissions-nous toujours nous souvenir et être reconnaissants que dans la naissance de cet enfant, l'univers s'est réjoui. Et puisse chaque période de Noël nous rappeler d'élever notre voix et d'emplir notre cœur de joie et de reconnaissance pour la venue du Christ roi. Le Christ est vivant. Il existe réellement. Il est notre Rédempteur à Noël et à jamais. J'en rends le témoignage solennel. Je vous quitte avec une bénédiction d'amour et mes souhaits les plus chaleureux pour une période de Noël édifiante. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant de cette occasion de commémorer avec vous la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Sa naissance est un don pour nous tous. L'apôtre Jean, citant le Sauveur, exprime en ces mots émouvants la naissance de celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ensuite, le Sauveur explique clairement que la vraie foi conduit à garder les commandements de Dieu, ce qui en retour nous qualifie pour obtenir le don de la vie éternelle, qui consiste à vivre avec Dieu pour l'éternité dans la lumière céleste. Le Sauveur a averti, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ensuite, il continue à enseigner, « Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Il complimente ceux qui, plutôt que de se cacher honteux, ont choisi le bien. et marche dans la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Un des symboles les plus magnifiques de la naissance de Jésus-Christ dans ce monde est la lumière. L'avènement du Messie promis depuis longtemps a apporté la lumière à un monde enténébré. Nous savons, selon le récit exact du livre de Mormon, que les prophètes de Dieu avaient depuis longtemps enseigné au peuple que la lumière serait le signe de la naissance du Fils unique de Dieu dans la chair. Samuel, le Lamanite, a prophétisé des années avant la naissance de Jésus. Et voici, il leur dit, « Voici, je vous donne un signe, car il y aura encore 5 années, et voici, alors le Fils de Dieu viendra racheter tous ceux qui croiront en son nom. Et voici, je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue, car voici, il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres, de sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait jour. C'est pourquoi il y aura un jour et une nuit et un jour, comme si c'était un seul jour et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe, car vous saurez que le soleil se lève et aussi qu'il se couche. C'est pourquoi vous saurez avec certitude qu'il y aura 2 jours et une nuit. Néanmoins, la nuit ne sera pas assombrie, et ce sera la nuit précédant sa naissance. Et voici, une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vue, et ce sera aussi un signe pour vous. Et voici, ce n'est pas tout. Il y aura beaucoup de signes et de prodiges dans le ciel. Et il arrivera que vous serez tous stupéfaits et étonnés, de sorte que vous tomberez par terre. Et il arrivera que quiconque croira au Fils de Dieu aura la vie éternelle. Et voici, c'est cela que le Seigneur, par son ange, m'a commandé de venir vous dire. Oui, c'est cela qu'il a commandé que je vous prophétise. Oui, il m'a dit, crie à ce peuple, repentez-vous et préparez le chemin du Seigneur. Tout comme les magnifiques lumières dans ce centre de conférence nous aident ce soir à nous souvenir de la merveilleuse bénédiction de la naissance de notre Rédempteur, il en est de même des paroles des anges envoyés de Dieu. Aucune narration de l'histoire de Noël n'est complète si on n'écoute pas les paroles de l'ange envoyé pour préparer la voie à son avènement. Au cœur du récit de la naissance de Jésus-Christ se trouve le témoignage des anges, tel qu'il est enregistré par les apôtres que Jésus a appelés et ordonnés. Dieu envoya l'ange Gabriel à Zacharie. L'ange lui prédit la venue au monde de Jean-Baptiste, qui devait préparer la voie pour Jésus et qui naîtrait d'Élisabeth, femme juste et stérile. Marie reçut le même messager céleste pour la préparer à devenir la mère du Fils de Dieu, le Messie longtemps attendu. Ces personnes justes connaissaient les Écritures sacrées et y croyaient. Marie connaissait et aimait cette Écriture, une prophétie d'Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Élisabeth savait bien que le Messie aurait un précurseur pour lui préparer le chemin. Ésaïe, le prophète poète, avait écrit, une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Élisabeth et Marie regardaient vers l'avenir avec confiance, en sachant que le Sauveur du monde viendrait et qu'un grand prophète serait son précurseur. Mais en raison de leur profonde humilité, elles furent préparées par l'Esprit à assumer leur rôle sacré dans ces événements grandioses de l'histoire de toute la création. La première présidence a autorisé la création d'un studio de cinéma dans le désert de l'Utah, où on pourrait reconstituer et filmer des scènes du ministère du Sauveur. L'objectif de cette initiative est de rester fidèle au texte des Écritures. comme ces courts-métrages suivent fidèlement les Écritures, ils peuvent vous paraître ennuyeux. Votre foi et le Saint-Esprit susciteront l'émotion que méritent ces événements qui ont changé le monde. L'Église a près de 50 clips vidéo en phase de montage. Ils seront placés sur un site web et disponibles gratuitement. Ce sera un don gracieux pour tous de la part de la Première Présidence. On peut en apprendre davantage sur le site web lds.org. Frère Monson, le président de l'Église, a demandé que nous regardions certains passages de ces vidéos. Ils vous apporteront la lumière et la joie des apparitions d'anges qui ont accompagné le don que notre Père Céleste nous a fait de son Fils bien-aimé comme Rédempteur.
Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et son règne n'aura point de fin.
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?
Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu.
Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein.
Point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Shalom Alechem.
Alechem, shalom.
As you saw and heard,
comme vous l'avez vu et entendu, c'est la lumière et les anges qui ont guidé les personnes ayant eu la bénédiction de participer à ces événements transcendants. Les mages furent dirigés par une étoile vers Jésus pour l'adorer. Ils ouvrirent leurs trésors et lui donnèrent des cadeaux précieux comme l'or, l'encens et la myrrhe. Ils s'adressèrent à lui comme au roi des Juifs. Les mages furent avertis par Dieu dans un songe qu'ils ne devaient pas retourner voir Hérode, car ils cherchaient à ôter la vie à l'enfant. Ils décidèrent de retourner dans leur pays par un autre chemin. Ensuite, un ange du Seigneur apparut à Joseph en rêve. L'ange l'avertit de s'enfuir en Égypte pour mettre Marie et l'enfant en sécurité. L'ange dit, « Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et Matthieu écrit, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Comme promis, l'ange réapparut à Joseph après la mort d'Hérode. L'ange prévint et guida la Sainte Famille vers la sécurité, cette fois à Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Ce soir, nous nous sommes souvenus de la naissance et des premières années du Sauveur. Il y a de nombreuses leçons à en tirer. Pendant que vous regardiez et écoutiez, la plupart de ces leçons vous ont été données, non pas tant par les images et les paroles que par l'Esprit. Vous avez reconnu et ressenti la vérité. Vous avez ressenti l'amour du Sauveur et pour le Sauveur. Et vous avez certainement ressenti un plus grand désir d'aimer comme il a aimé. Vous avez senti votre foi grandir envers les prophètes et les serviteurs de Dieu, qu'il s'agisse des anges qu'il envoie pour nous soutenir, que des personnes qu'il appelle à son service pour nous guider. Vous avez sûrement ressenti une plus grande foi que Dieu est le même, sans changement, dans le temps ou l'espace. Et vous avez ainsi pu ressentir l'Esprit vous rendre témoignage de Joseph Smith, le prophète, dont c'est l'anniversaire dans quelques jours. Son témoignage inébranlable que l'ange Moroni, un prophète d'autrefois, lui a rendu visite, est en parfait accord avec les expériences des mages, de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie, la mère de notre Seigneur, de Joseph et d'un nombre incalculable d'autres personnes. La leçon n'est pas que nous pouvons avoir ces mêmes expériences merveilleuses au moment où nous les souhaitons, ni que nous les aurons quand nous en ressentons le grand besoin. La leçon est que Dieu connaît chacun de nos besoins, qu'il nous aime et qu'il veille sur nous. Il nous a fait don du Sauveur, son Fils parfait, l'agneau sans défaut. Grâce à l'apparition personnelle du Père lui-même et du Fils, et par l'intermédiaire d'anges, il a rétabli l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Il a appelé des prophètes et des apôtres pour nous guider vers la sécurité dans cette vie et vers la vie éternelle dans le monde à venir. Jésus-Christ a été crucifié et est ressuscité pour que nous puissions vivre à nouveau, être purifiés et lavés du péché, et préparé pour la gloire de la vie éternelle. Ce sont des dons que nous pouvons offrir aux autres pour lui. Nous le faisons en nous souvenant de lui et en essayant de tout notre cœur de faire ce qu'il ferait et d'aimer comme il aime. Il y a quelques années, une chanson dans un film avait ces paroles. « Ayez pour vous-même un joyeux petit Noël. » Eh bien, vous pouvez donner un beau et merveilleux Noël si vous vous souvenez des dons que Dieu vous a faits et du mieux que vous pouvez, les offrir aux autres comme il le ferait lui-même. C'est là l'esprit de Noël et du vrai bonheur quotidien. Je témoigne que Jésus est le Christ vivant. En son nom sacré. Amen.
Nous remercions le chœur du Tabernacle et l'orchestre de Temple Square pour la musique merveilleuse qui a amené l'esprit de Noël dans notre cœur. Nous remercions également les directeurs de chœur et les organistes de leurs efforts et de leur préparation, ainsi que toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont rendu cette veillée possible.
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. À la fin des propos du président Monson, le chœur terminera la réunion en chantant « Douce nuit, sainte nuit ». L'assemblée se joindra à lui pour chanter le dernier verset selon les indications de McQuilberg. Barbara Thompson, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière de clôture. Frère Monson.
Before I express my prepared remarks,
avant de dire ce que j'ai préparé, je voudrais utiliser deux mots dont quelqu'un a dit qu'ils étaient les plus importants en anglais. Je voudrais vous dire merci en français. Merci à vous tous qui avez assisté ce soir. Je voudrais dire merci à vous tous qui écoutez. Je voudrais dire merci à tous les employés de l'Église et dans les bureaux des autorités générales qui nous aident tant et qui font tant attention à nous et nous aident par leur travail. Je crois véritablement que l'Esprit du Seigneur est présent ce soir. Et je vous témoigne que vous tous qui avez des conseillers avez une grande bénédiction. J'en ai connu plus que d'autres, mais j'ai attendu jusqu'à ce que le Seigneur me dise par l'Esprit qui devrait servir à mes côtés. Je les remercie et tous ceux qui œuvrent avec eux et vous tous qui participez ce soir. Ce soir, nous sommes de nouveau réunis en tant que frères et sœurs pour ce qui est devenu notre traditionnelle veillée de Noël. Nous avons été vraiment été touchés par cette musique divine et ces messages inspirants. Nous avons pu regarder une magnifique vidéo représentant la nativité. J'ai été témoin, tout comme vous, au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ce qu'est devenue la commercialisation annuelle de Noël, année après année. Cela m'attriste de voir Noël devenir de moins en moins centré sur le Christ et de plus en plus tourné vers le marketing et les ventes, les fêtes et les cadeaux. Et pourtant, Noël est ce que nous en faisons. Malgré toutes les distractions, nous pouvons faire de sorte que le Christ soit au centre de notre célébration. Si ce n'est pas encore le cas, nous pouvons mettre en place des traditions de Noël pour nous et pour notre famille qui nous aideront à saisir et à conserver l'esprit de Noël. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai une tradition particulière à la période de Noël. En cette période de l'année, les membres de ma famille savent que je vais relire mes précieux livres de Noël et méditer sur les paroles merveilleuses de leurs auteurs. Je commencerai par l'Évangile de Luc, qui raconte l'histoire de Noël. Je lirai ensuite un conte de Noël de Charles Dickens. Puis, je finirai par The Mansion de Henry Van Dyke. Je dois toujours essuyer des larmes à la lecture de ces écrits inspirés. Ils touchent mon fort intérieur et m'apportent l'esprit de notre Sauveur. Dans un conte de Noël, on peut lire le récit intemporel d'Ebenezer Scrooge et de la visite qu'il reçut de Jacob Marley, son associé décédé, et des fantômes des Noëls passés, présent et à venir. Scrooge est un être si déplaisant que son nom est devenu un terme universellement accepté pour désigner une personne méchante ou souffrant d'avarice. Au cours de la nuit précédant Noël, Scrooge voit ce qu'il a eu dans le passé, ce qu'il a dans le présent, et ce que sa vie sera s'il reste sur le chemin qu'il emprunte depuis si longtemps. Il est capable de reconnaître les erreurs qu'il a commises. Il apprend que le bonheur est à notre portée si nous abandonnons la recherche du gain personnel et les choses du monde, nous efforçant ainsi d'aider les autres et d'apprendre à chérir l'amour de notre famille et de nos amis. Menant désormais une vie désintéressée et consacrée au service, Scrooge déclare pour finir, « Je respecterai Noël de tout mon cœur et j'essaierai de le faire durer toute l'année. Je vivrai dans les jours anciens, dans le présent et dans l'avenir. Les trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas oublier leurs leçons. » Fin de citation. Ce récit touchant ne cessera jamais de m'inspirer. La dernière de mes lectures, The Mansion, de Henry Van Dyke, est un récit similaire à celui d'Ebenezer Scrooge, mais dépeint la vie d'un certain John Waitman, un homme fortuné, un détenteur du pouvoir politique, un citoyen prospère. Un soir, John s'est assis dans sa bibliothèque, dans un fauteuil confortable, admirant l'étendue de sa fortune. Sous ses yeux s'étalaient des descriptions et des images de la Waitman, de l'hôpital, de la présidence Waitman de jurisprudence politique, ainsi qu'un article concernant l'ouverture de l'école de grammaire Waitman. John Waitman était empli de satisfaction. Il avait amassé une grande fortune. Et lorsqu'il donnait, il voulait être reconnu. Sa philosophie à propos des dons peut être résumée par ses propres mots. Je le cite, « Ne donne pas d'argent aux mendiants. Fais des dons là où ils peuvent être vus. » Il a pris la Bible familiale posée sur la table, l'a ouverte et a lu les paroles suivantes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Fin de citation. Le livre semblait petit à petit s'éloigner de lui. Il s'est penché en avant, tenant sa tête à deux mains, et est tombé dans un profond sommeil. Dans son rêve, John Waitman était transporté dans la ville céleste. Un guide est venu vers lui et un groupe d'autres personnes qu'il avait connues de son vivant et leur a dit qu'il les conduirait à leur demeure céleste. Puis, le mari a dévoué d'une « Dr. McLean, voici votre demeure. Entrez, il n'y a plus de maladie ici, plus de mort, ni de douleur, ni de peine, car vos vieux ennemis ont été vaincus. Mais tout le bien que vous avez fait aux autres, toute l'aide que vous avez donnée, tout le réconfort que vous avez apporté, toute la force et l'amour que vous avez prodigué à ceux qui souffraient, sont ici. Car nous en avons fait une demeure pour vous. » Puis le mari dévoué d'une femme invalide a vu sa tendre demeure où se trouvait une mère, jeune veuve, qui avait élevé une famille remarquable. Une jeune femme paralysée qui avait été clouée au lit pendant près de 30 ans, impuissante, mais non sans espoir, a aussi reçu une tendre demeure. Elle avait atteint, par un miracle de courage, son seul et unique but, ne jamais se plaindre, mais toujours partager une partie de sa joie et de sa paix avec ceux qui l'approchaient. L'un après l'autre, les voyageurs ont été conduits vers leurs demeures respectives et ils sont entrés joyeusement. De l'intérieur, à travers la porte d'entrée, on entendait de douces voix leur souhaitant la bienvenue. Mais cette fois, John Waitman était impatient de voir à quoi ressemblait sa demeure. Alors que le guide et lui marchaient, les maisons devenaient de plus en plus petites. Enfin, ils sont arrivés devant un champ friche, nu et isolé. Au milieu du champ, il y avait une hutte-cabane. Et le guide lui dit, « Voici votre demeure, John Waitman. » choqué. John Whitman a dit au guide qu'il y avait sans doute une erreur avec un autre Whitman. Avec des sanglots dans la voix, il a crié, « Est-ce une demeure convenable pour quelqu'un d'aussi connu et d'aussi pieux que moi? Pourquoi est-ce aussi pitoyable, petit et misérable? Pourquoi n'est-elle pas grande et belle comme celle des autres ?» Le guide lui a répliqué, « C'est tout le matériel que vous nous avez donné. » John Whitman était abattu. N'avez-vous pas entendu que j'ai construit une école, une aile d'hôpital, trois églises? Le guide le mit en garde. Attendez. Tout ceci n'était pas mal fait, mais tout était marqué et utilisé comme fondation pour le nom et la demeure de John Whitman dans le monde. En vérité, vous avez été récompensé pour cela. Voulez-vous qu'on vous remercie deux fois? Alors John Whitman, attristé mais assagi, posa une question sincère. Mais qu'est-ce qui compte ici? La réponse a été, seulement ce qui est donné sincèrement. Seulement le bien qui est fait par amour du bien.
Is greater than the reward. Only those gifts in which the
seulement les dons dans lesquels le donneur s'oublie. La voix s'estompait, tandis que John Whitman était réveillé par le son de l'horloge, annonçant l'heure. Les rayons fins et pâles du matin urbain tombaient dans la chambre à travers le petit espace qui séparait les épais rideaux. Il avait dormi toute la nuit, changé par le message de son rêve. Il avait maintenant une vie à vivre, de l'amour à partager et des cadeaux à donner. Ces lectures ne cessent jamais de m'apporter l'esprit de Noël. L'esprit de Noël est l'esprit de l'amour, de la générosité et de la bonté. L'esprit de Noël illumine la fenêtre de notre âme. Nous y regardons la vie agitée du monde et nous nous intéressons plus aux gens qu'aux choses. L'esprit de Noël est quelque chose que je l'espère, que nous aurons tous dans nos cœurs et dans nos vies, pas seulement cette saison particulière, mais aussi tout au long de l'année. Un sage chrétien a dit, « Ne fêtons pas Noël, mais gardons Noël dans nos cœurs et dans nos vies. » C'est mon appel ce soir, car lorsque nous gardons l'esprit de Noël, nous gardons l'esprit du Christ, car l'esprit de Noël est l'esprit du Christ. Cela chassera toutes les distractions autour de nous qui peuvent étouper Noël et engloutir sa vraie signification. Il n'y a pas de meilleur moment que cette période de Noël pour nous consacrer tous à nouveau à appliquer les principes enseignés par Jésus-Christ. Parce qu'il est venu sur terre, nous avons un parfait exemple à suivre. Alors que nous essayons de devenir plus comme lui, nous éprouvons de la joie et du bonheur dans nos vies et de la paix chaque jour de l'année. C'est son exemple qui, si nous le suivons, attise en nous plus de gentillesse et d'amour, plus de respect et de souci des autres. Parce qu'il est venu, notre existence mortelle a un sens. Parce qu'il est venu, nous savons tendre la main à ceux qui sont dans les difficultés, dans la détresse, où qu'ils soient. Parce qu'il est venu, la mort a perdu son aiguillon, le tombeau sa victoire. Nous vivrons de nouveau parce qu'il est venu. Parce qu'il est venu et a payé le prix de nos péchés, nous avons la possibilité d'obtenir la vie éternelle. Parce qu'il est venu, nous sommes réunis ce soir pour l'adorer dans les liens de la fraternité et de l'amour. Que son esprit si précieux puisse être avec vous et puisse-t-il être le centre de vos fêtes. Et en fait, au centre même de vos vies. C'est là ma prière en votre faveur, de toute mon âme, en son nom sacré. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, nous nous inclinons humblement devant toi à la fin de cette veillée. Nous sommes très reconnaissants pour l'occasion que nous avons eue d'être ici. Père, nous t'aimons. Nous aimons ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants pour son expiation, pour sa vie parfaite, son exemple parfait. Nous prions pour que nous puissions faire connaître ce que nous savons et ce que nous ressentons avec les autres, afin qu'ils aient cet évangile dans leur vie. Nous te remercions pour les messages que nous avons entendus ce soir et nous te remercions pour la belle musique inspirante. Nous prions pour que nous puissions nous souvenir de cela tout au long de ce mois et de cette merveilleuse période de fête. Aide-nous à nous soucier de ceux qui souffrent, qui sont malades, qui subissent les calamités de la guerre, et nous prions pour que tu puisses les bénir et pour que nous ayons le désir de partager, d'aider, de servir et de rechercher les personnes qui sont dans le besoin. Encore une fois, nous t'aimons et nous t'exprimons notre gratitude. C'est notre humble prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé. Amen.